Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 290e numéro de notre podcast. Un numéro dans une édition classique qui sera donc consacré à des news et à des reviews presque exclusivement de comics en VO et en VF. Je suis Mathieu, vous allez écouter le 290e épisode de Comic Stories. Et pour ouvrir ce mois de décembre, je suis accompagné de toute l'équipe, c'est-à-dire Anthony. Ah, ou pas. Boris.
Moi je suis là, oui. Bonjour.
Clément.
Bonjour.
Et Erwan.
Présent.
Allez, on a quelques minutes encore devant nous pour qu'Anthony revienne des limbes. On verra s'il fait son comeback. On va commencer, comme de coutume, par une partie sur les comics VF. Une petite actu, Boris, que tu as trouvé. Et oui, ça sent un petit peu là les deux news que tu nous as. Enfin, tu nous as mis deux news. Ah non, il en manque une. Ah,
celle-là, je l'ai
adaptée. Ouais. D'accord. Ça sentait un petit peu. Boris est fâché cette semaine.
Ouais, là, un petit peu. Je suis toujours un peu fâché. Hein. Faut dire que le monde des comics nous réserve quand même souvent des surprises totalement inattendues. Là, c'est le programme de Bliss pour la rentrée 2020, enfin le début d'année 2020, où ils annoncent qu'ils vont donc bien sûr continuer à publier les titres Valiant, mais aussi continuer à ouvrir leur catalogue à d'autres éditeurs, d'autres titres. Alors, ils l'avaient fait avec l'excellent Kaiju Max l'été dernier. Et là, ils vont s'attaquer à des titres jeunesse. Et parmi ces titres, il y a une série de John Allison, dont on est assez fan à travers Giant Days.
Ouais.
Qui s'appelle By Night, une maxi-série. Je ne connais pas du tout, mais bon, quand j'ai vu John Allison, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Ça me paraît, ça peut être sympa. Et il y a un autre titre qui s'appelle Le Cercle du Dragon T, que je ne connais pas non plus, mais qui a eu un prix. Deux Eisner Awards en 2018.
D'accord.
Donc, je pense qu'une nouvelle fois, bonne pioche de ce côté-là.
Après et la mauvaise Max. Pioche, c'est
ben, la mauvaise pioche, c'est que Bliss, comme beaucoup d'éditeurs, se paninise en termes de tarifs, puisque les volumes simples pour une petite 130aine de pages passent à 17 euros.
Mmh. Ah ouais.
Donc ça devient un petit peu cher. Surtout que, bon, après, ça c'est indépendamment de Bliss, mais bon, la qualité des mini-séries qui arrivent est quand même assez moyenne. Moi j'en ai commencé beaucoup et peu fini. Donc au final, ça ne devient pas forcément très intéressant.
Ah, c'est vrai qu'ils sont un peu prisonniers de la qualité de l'univers Valiant. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'ouvrent de plus en plus à des choses un peu autres.
Ouais, je pense que oui, ils ont intérêt hein, de toute façon, sinon ça va être compliqué. Et on voit aussi avec le tome de X-Men Manowar là, que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Pour le 1 et le 2 étaient à 20 euros pour 280 pages, je crois. Mmh. Et là, pour 80 pages de plus, on est passé à 30 euros. Donc, on sent que les prix augmentent partout. Hein. Mmh. Donc, c'est un petit peu. Enfin, c'est un éditeur quand même jeune et qui ne doit pas vendre non plus énormément de titres.
Oui.
Donc, si en plus les prix augmentent, ça va peut-être encore réduire le nombre d'acheteurs.
Et bien, à suivre en 2020, voilà. Du coup. Alors, on va attaquer les chroniques maintenant, nos reviews. Alors, du coup, Boris, tu avais prévu en premier, mais on va te laisser te reposer, puisque à ton grand âge, tu as besoin.
Ouais, je suis déjà épuisé là, je fais une petite sieste.
Du coup, on va commencer avec Erwan. Cette saison, Klaus tome 2.
Ouais, Klaus tome 2. Alors, le tome 1, on en avait parlé, il me semble, quand il était sorti. Mm-hmm. C'était un tome qui était assez excellent hein, par Grant Morrison et Dan Mora. Très bien écrit par Grant Morrison et très bien illustré par Dan Mora, et j'avais gardé d'excellents souvenirs de ça. Le tome 2 est sorti il y a très peu de temps et il est déjà plus fin, puisqu'en fait c'est une suite mais qui concerne en fait des mini-séries qui sont sorties autour de Klaus. Des séries qui se passent plus dans notre époque, puisque dans le premier c'était pas le cas. Mm-hmm. Alors les dessins sont toujours aussi beaux, hein, c'est toujours Dan Mora. Par contre les mini-séries, de là à dire que c'est aussi bien que le 1, j'irai pas jusque là. La première série est cool, puisqu'on a l'impression qu'en fait c'est Klaus qui se bat contre la Reine des Neiges, donc c'est assez sympathique. Pour la deuxième histoire, C'est cool parce que Grant Morrison s'éclate. En fait, on a l'impression qu'il écrit son Klaus, donc son Père Noël, en version un peu Batman, parce qu'il y a pas mal de clins d'œil à Batman dedans. Et il est toujours aussi engagé quand il écrit, puisqu'il est aussi question en fait, de Coca-Cola, avec les origines du Père Noël, bon, qu'ils ont appelé Pola Cola dedans.
Okay.
Mais voilà, ça, c'est un peu plus faiblard que le premier. C'est des mini-séries, donc c'est pas non plus forcément quelque chose de super intéressant à lire.
Ouais.
Si on a bien aimé le premier, je pense qu'on aimera le deuxième. J'ai pas été autant séduit en tout cas, mais
okay.
c'est une bonne lecture. Hein. Le Père Noël, on a grandi tous avec a priori, donc voilà.
A priori, ouais.
Voilà.
Bon, après,
mais c'est ouais, c'est sympa.
S'il y a ces petits clins d'œil à Coca et tout ça, c'est vrai que c'est cool venant de Morrison, mais après, bon. En même temps, le 1 était tellement haut en termes de surprise et de qualité que. Peut-être plus de chances d'être déçu sur un deuxième.
Ouais, mais les candidats Batman remontent un peu le niveau, donc c'est
ouais.
Assez cool à lire juste pour ça.
Ok, voilà. Bah, sachant que c'était pas une vraie suite, enfin, qu'on ne reprenait pas la suite de la première, etc. C'était plutôt des choses parallèles, c'est vrai que moi ça m'intéressait moins.
Non, le premier convient très bien. Déjà, le deuxième c'est en plus, c'est vraiment en complétiste si vous le voulez.
Mm-hmm.
Mais le premier se suffit à lui-même en fait, hein, clairement. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà du premier.
Eh ben parfait, pour ma part, je m'en tiendrai au premier. Boris, puisqu'on est sur des premiers, toi tu ne regardes pas de série, mais pourtant tu lis un truc lié à une série qui est sortie il n'y a pas longtemps.
Voilà, je ne fais pas dans le récent, on va dire, dans la réédition, mais voilà, je vais parler de The Boys, donc la série est sortie récemment, et ça m'a donné envie de me replonger dans la série. Alors je l'avais commencé il y a un certain temps, et puis je n'avais pas continué, donc là je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, donc j'ai relu le tome 1. Et c'est très bon. Alors je résume rapidement, même si je pense que tout le monde connaît un petit peu le pitch. Donc c'est notre monde, une parodie de notre monde, on va dire, où les super-héros sont censés protéger le citoyen moyen, mais en fait ce sont des gros tarés qui se croient au-dessus des lois et qui ont des pratiques plus que douteuses à tout point de vue. Et donc un groupe d'individus se réunit autour d'un leader, on va dire, qui s'appelle le boucher, The Butcher, et va pour travailler pour la CIA et essayer de neutraliser ces êtres au super pouvoir. Donc ils sont au nombre de 5. Il y a une jeune femme très mutique qui s'appelle la fille, le français, un autre qui s'appelle le français, l'autre la crème. Enfin, ils ont tous des caractéristiques bien précises et ils sont tous pas mal fêlés aussi. Et donc, ils vont recruter un nouveau membre qui s'appelle Huggy et qui va justement subir les super pouvoirs puisque sa petite amie va se faire tuer lors d'une intervention d'un être à super pouvoir qui est totalement irresponsable. Donc ensuite, une fois qu'ils sont réunis, on va les suivre dans leur quête de neutralisation des super-héros. Alors, c'est du Garcenis pur jus, c'est de la satire complète de super-héros. C'est assez sans limite quand même, il faut le dire. Hein, c'est pas toujours subtil, mais c'est drôle. Donc, bon, il faut aimer. Je pense que si on n'est pas fan du style Garcenis, c'est un petit peu. Il faut faire une croix dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il parle aussi du monde actuel, de la politique corrompue et des élites qui sont un peu prêts à tout pour arriver à leur fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait pas mal rire. Il y a des fois, je me suis dit non, c'est pas possible. Il ne va pas oser faire ça. Mais si, le scénariste se fait plaisir et ose tout. Mais ça passe parce que c'est tellement gros des fois que. Bon, voilà. Au dessin, c'est Derek Robert. Alors il a un trait un peu particulier, mais au niveau storytelling, composition, c'est vraiment hyper efficace. Ça passe tout seul. Donc j'ai eu du mal à voir le tome 1 puisque Panini l'a réédité, mais avec parcimonie et difficulté, on va dire. Donc j'ai réussi à trouver en fait une vieille édition, moi, parce que la réédition qui était censée arriver chez mon libraire est toujours pas arrivée. Et j'avais fait mettre de côté les autres tomes, donc je les ai. Donc je vais pouvoir continuer, alors que chez mon libraire, on lui a dit que les autres tomes, pour l'instant, étaient épuisés, ce qui est logique pour pouvoir suivre la série. Donc Panini fait encore assez fort. Mais d'un point de vue de la série, enfin, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très bon. Après, il faut aimer le style Garcenis, et là c'est du Garcenis poussé à son max, on va dire. Voilà.
Ouais, j'avais lu le premier tome seulement, ça m'avait bien plu, mais après, faute de temps, et aussi, il faut faire des choix, à un moment ou à un autre, voilà, j'avais pas forcément continué, mais c'est vrai que c'était... J'en garde un plutôt bon souvenir, personne d'autre ne l'a lu ?
Pas encore.
Pas encore.
Ok. Allez, je vais te laisser faire une nouvelle pause, Boris, avant que tu nous parles de Terry Moore. Et je vais vous dire deux mots, moi, de Moutafoukaz. Je vous avais dit dans la dernière émission que j'avais profité de Comic-Con Paris pour m'acheter le gros pavé intégral que j'ai plutôt dévoré. Voilà, c'était génial, évidemment. Y a pas de... Je confirme tout ce qu'Erwan en avait dit ici. Moutafoukaz, c'est à lire absolument. Donc plutôt que de répéter ce qui a déjà été dit, je vais vous parler d'un spin-off qui est en train de sortir, alors en format single, et puis qui sortira j'imagine après en relié, tout comme ça avait été le cas du premier spin-off. Celui-ci s'appelle Loba Loca. C'est toujours scénarisé par Run, mais ce n'est pas illustré par lui, puisque c'est Guillaume Saint-Gelin que l'on connaît notamment pour PTSD, qu'on avait beaucoup aimé, on en a parlé dans une précédente émission. C'est lui qui dessine, du coup, cette nouvelle mini qui sera en 6 singles, puis après un tome relié. Deux numéros sont déjà sortis, le troisième sort là, cette semaine. Je vais vous en parler évidemment, mais sachez avant que oui, c'est tout aussi bien que l'œuvre mère, ça, il n'y a aucun doute. Et le style de Saint-Gelin d'ailleurs est particulièrement cool. On parle de qui? On parle de Guadalupe Mayflower, surnommée la Loca par un peu tout le monde dans son lycée. C'est un peu une outcast de son lycée. La série commence par une bonne petite scène de sexe, voilà, qu'on nous balance comme ça. Alors, c'est vrai que quand on ouvre la cover, bouf, on se la prend de front, cette scène. Ça donne le ton direct. Clairement, bah oui, on comprend tout de suite qu'on est dans l'univers de Moutafoukaz. Ça, y a pas de souci. Donc, scène de sexe qui se trouve être une scène entre donc la fameuse Guadalupe et quelqu'un qui est plutôt en vue dans le lycée. Je vous passe les détails pour éviter de spoiler à ceux qui n'ont pas lu, et je sais qu'il y en a ici. Cette pauvre Guadalupe, c'est un peu la tête de turc du lycée. Ça parle beaucoup de harcèlement, enfin, dans ce début de série. De harcèlement, de dépression dans laquelle va sombrer petit à petit cette Loca, comme elle est surnommée, jusqu'à péter les plombs, tout simplement. Hein, et ce pétage de plomb va lui amener à se poser pas mal de questions. La question qu'on se pose, nous, jusque-là, c'est ok, mais quel est le lien avec Dark Meat City, Angelino et compagnie? Et bah, le lien, il arrive à la fin du numéro 1, où on découvre un petit truc que perso, j'avais pas vu venir et qui est super bien senti pour raccrocher ça à l'univers global de Moutafoukaz. C'est bien écrit, le message passe. C'est en plus hyper d'actualité par rapport à toutes les questions de harcèlement et compagnie. Voilà, ça fait mouche forcément. Et puis bah, la quête dans laquelle Guada va se lancer m'intéresse en tout cas fortement, et elle commence dès le numéro 2. Et ma foi, ouais, c'est super cool, et ça va sentir bon le voyage à Dark Meat City et compagnie. On va revenir un petit peu dans tout cet univers-là qu'on a tant aimé quand on a lu l'intégrale et vu le film. Et puis les dessins de Saint-Gelin, franchement, c'est assez dingue. C'est assez dingue. J'avais peur de ne pas accrocher graphiquement avec la rupture par rapport à l'intégrale que je venais de me lire. Et en fait, non, ça marche super bien. C'est un dessinateur assez génial et ça colle, tout colle, tout colle dans ces deux premiers numéros. J'ai hâte que le troisième arrive et de continuer à découvrir ça. Je regrette presque de ne pas avoir fait comme Erwan et de ne pas avoir voulu tout le dire d'un coup, parce que du coup, bah, faut attendre.
Et l'attente va être longue après, puisque ça, là, les premiers sortent tous les mois, mais à partir du 4, c'est un tous les 2 mois.
M'en parle pas, je vais commettre un drame. Je vais aller braquer en Kama, je trouve un truc. Mais non, c'est génial, c'est super bien, et foncez, foncez. Vous avez toute l'intégrale à lire, ceux qui ne l'ont pas lu, vous avez Puta Madre en spin-off aussi, et puis bah, Loba Loca qui suivra, si vous attendez que tout soit sorti. Encore du bon du côté du label 619, c'est clair. Boris, deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire.
Oui.
Toi, tu vas nous ramener
effectivement, c'est pas,
dans la douceur
c'est pas
de Terry Moore.
Ah, douceur, oui. Après, c'est pas toujours un rose, mais
au niveau du trait, en tout cas.
Oui, au niveau du trait, je pense de l'ambiance générale, on va dire. Alors, je vais parler de Strangers in Paradise, dont j'ai déjà beaucoup parlé, et je vous ai rabâché les oreilles avec. Je crois que je suis le seul à lire du Terry Moore, hein. dans le groupe. Donc là, pareil, l'intégrale 4 chez Delcourt de Strangers in Paradise. Donc pour résumer un petit peu, pour remettre en place, pour ceux qui ne connaissent pas, Strangers in Paradise, c'est une série qui a débuté dans les années 90, pendant 15 ans, et qui voyait deux jeunes filles, Kachou et Francine, et Terry Moore, nous conter leurs aventures, leurs aventures amoureuses, mais aussi le passé de Kachou qui, dans sa jeunesse, sa prime jeunesse, s'était retrouvé aux mains, on va dire, d'un groupe mafieux et avait subi tout un tas de choses. Et donc, elle devait faire face à ce passé et ça créait une ambiance polar assez sombre en même temps. Donc, il y avait un mélange de soap et de polar et c'est ce qui faisait le charme de la série. Donc, la série s'est arrêtée il y a une dizaine d'années et là, Terry Moore a décidé, pour les 25 ans de la création de la série, de reprendre ses personnages et de refaire une mini-série. Alors en fait, c'est pas la suite directe, puisqu'entre temps, il a bien sûr créé d'autres séries. Et donc là, il s'est amusé à réunir un petit peu tous les personnages de ses précédentes séries. Donc ça fait un peu un crossover, comme on dit, chez Marvel ou chez DC. Et donc on retrouve tous les personnages. Alors c'est pas artificiel du tout, l'histoire proposée fonctionne totalement et c'est très cohérent. Donc en fait, on retrouve les deux jeunes filles qui sont amoureuses, qui ont fondé une famille, ont deux petites filles adorables et sont toujours en relation avec d'anciennes complices, on va dire, du groupe mafieux, mais qui sont passées de leur côté depuis. Et donc, elles apprennent qu'une ancienne fille de main, je ne sais pas si ça se dit, femme de main, veut témoigner pour sauver sa peau et raconter un petit peu tout ce qui se passait et donc mettre en danger Kachou et sa famille. Donc elle part sur les routes pour essayer de la retrouver et la convaincre gentiment de ne pas témoigner. Donc on va la suivre et à travers ce road trip un peu, elle va croiser tous les personnages qu'a créé Terry Moore à travers ses séries. Alors ces séries, c'était Rachel Rising, Echo et Motor Girl, dont j'ai aussi déjà parlé, soit par écrit, soit à l'oral, qui sont là aussi des petits bijoux. Alors, bon, moi je suis accro, hein, donc je vais peut-être pas être très objectif, mais j'ai trouvé ça très 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 bon, très bien écrit, toujours aussi bien dessiné. Alors quand je me suis replongé un petit peu dans les premiers tomes de la série initiale, on voit que le trait de Terry Moore a beaucoup changé, c'est bien affiné, c'est nettement plus beau. Et bon, impeccable pour moi, il n'y a pas de souci. L'intégrale est aussi un bel objet. Je ne sais pas si vous avez vu les intégrales dans les librairies.
Si.
Les intégrales produites par Delcourt sont vraiment sublimes. Et là, en plus de la mini-série qui fait 10 épisodes, Delcourt ajoute une mini-série qu'avait fait Terry Moore qui s'appelle SIP, donc Strangers in Paradise Kids, où il imagine les personnages, mais quand ils étaient enfants. Et donc, on retrouve les mêmes personnages avec leurs caractérisations. Et sous forme de série humoristique. Et c'est assez drôle, en fait. Ça fonctionne très bien. J'avais un petit doute au début, parce que je ne connaissais pas l'existence de cette série. Et je l'ai lu, et c'est super efficace. Le scénariste a un vrai talent aussi pour écrire des séries humoristiques. Et bonus cerise sur le gâteau, on a à la fin plus de 200 pages de dessins, puisqu'ils ont inclus un sketchbook que Terry Moore avait fait pour le 25e anniversaire de la série. Et donc là, il y a quasiment un tiers du bouquin qui est constitué que de dessins. Et bon, moi, j'adore ces dessins, donc je suis fan. Mais bon, je l'avais déjà acheté par ailleurs. Donc moi, ça me fait un petit doublon, mais c'est pas grave. Il y a des commentaires qui sont aussi très intéressants sur la façon dont il a créé les personnages, etc. Donc à la fois bel objet et super histoire. Voilà. Donc si je ne vous ai pas convaincu, je ne peux pas faire mieux. Là.
A priori, c'est terminé faire. Maintenant. C'était l'intégrale 4 et il y aura a priori...
Alors, il n'y aura pas l'intégrale 4. Par contre, en ce moment, je la suis en VO. Là, il y a la série 5 Years, dont je parle aussi régulièrement, qui est la suite directe de cette mini-série. Là, puisque la série se termine sur une ouverture, on va dire. Hein. Donc, la série se continue, mais sous un autre nom. Okay. Puisqu'on retrouve encore les mêmes personnages. C'est un peu... en fait, c'est la suite. Hein. Je crois qu'il ne fait que des mini-séries maintenant. Parce qu'en termes de vente, etc., en single, c'est pas énorme. Donc, c'est ce que j'avais lu, qu'il avait expliqué qu'il ne fallait pas qu'il dépasse plus de 10 numéros, sinon les ventes baissaient trop. Et donc, après, il sort le TP et puis ça refonctionne un peu mieux. Quoi.
Okay, bah, si ça lui permet de continuer son œuvre, très bien.
Voilà, donc allez-y, achetez les intégrales.
Ouais, faut se les lire. Hein.
Ah ouais, mais ça se lit vite, ça se lit bien, c'est super.
Ok. Et bah peut-être un jour. Allez, on va passer à la partie VO maintenant. Une petite actu pour commencer. Une mini, je crois. du côté de chez Marvel qui te fait de l'œil.
Ouais, ça a coupé, c'est pour ça que je n'avais pas entendu ce que tu avais dit. Donc la news Fantastic Four, c'est
ouais.
ça? Oui, alors bon, bah, Marvel lance différents projets régulièrement, tous alors, avec plus ou moins de qualité ou de bonnes idées, on va dire. Ce n'est pas toujours un coup gagnant. Là, il propose un one-shot sur Grimm, la chose. Donc ce sera un one-shot qui s'appelle pardon, Fantastic Four Grimm Noir. Donc on va retrouver la chose en détective. Donc ça va être du polar un peu.
Okay.
Et donc c'est Gary Dugan et Ron Garney au dessin. Alors dans ce domaine, Gary Dugan est plutôt pas mauvais en général. Hein. Là en ce moment je lis Dead Eyes de lui et ça fonctionne hyper bien. Donc je me dis pourquoi pas peut-être aller voir. Ça peut être un des projets intéressants. Mais c'est un one shot, hein. Ça n'ira pas plus loin a priori.
Très bien. Eh bien écoute, peut-être nous en parleras-tu prochainement. Du côté des chroniques, du coup, Clément, tu vas ouvrir le bal de tes titres, puisque tu vas commencer. Alors, avec un titre, attention, hein. Attention
ouais.
à ce que tu vas dire, parce qu'il y a deux camps. Il y a clairement deux camps.
Choisis ton équipe, là. Choisis ton camp.
Après, vu que c'est du Jeff Lemire, je pense que je sais déjà dans quel camp il sera. Family Tree numéro 1.
Oui. Donc, ça y est, il est enfin sorti. Ça faisait un bail qu'on l'attendait.
2 ans.
2 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans déjà. L'histoire vite fait, tout simplement, hein, je vais le faire très bref, c'est une gamine qui découvre qu'elle a un arbre, que son corps a des branches qui poussent, en gros, je résume bien la chose.
Oui, de toute façon, c'est tout ce qui se passe dans le numéro, donc oui, c'est
voilà.
résumé.
Voilà, donc, et effectivement, c'est ce qui se passe dans ce numéro, donc ai-je aimé ou pas?
Je pense pas, enfin, j'espère pas.
J'ai pas détesté.
Ouais.
Clairement, j'ai
c'est
pas
facile,
détesté.
Ça.
Ouais, c'est facile. J'ai pas détesté, mais j'ai dit ok. En fait, ça aurait pu être dit en 2 pages. Il se passe rien en fait. C'est effectivement, c'est une introduction, mais en fait, alors ok, il y a peut-être le cliffhanger et encore qui peut être intéressant, mais c'est vrai que il se passe pas grand chose quoi. C'est assez long à se mettre en place et pour un premier numéro, c'est assez décevant. C'est assez décevant et même Lemire sur ses autres titres avait habitué à mieux, même pour AP. Et là, c'est vrai que il se passe pas grand chose. Et puis en plus de mémoire, on savait beaucoup plus de choses rien qu'en lisant.
Oui.
Rien qu'en lisant l'annonce, je m'en souviens plus, donc ça m'a pas gêné, mais de mémoire, ça dévoilait bien plus de choses.
Bah, rien qu'en lisant le titre déjà, bon, et voir la couverture, bah, en fait, suffit de regarder la cover en fait, et de regarder le titre de l'histoire, Family Tree, une fille avec un arbre dans le dos. Il y a le mot family, donc ça va toucher sa famille. On n'en sait pas plus en ayant lu les 20 pages qui sont derrière la cover.
Totalement.
Donc,
totalement.
Alors oui, il y a plein de trucs qui sont dits dans la sollicitation, dans la présentation. Il y a énormément de trucs. Bah, sauf que tout ça, on le voit pas et c'est du spoil pour tout le reste du premier arc. Donc, ouais, grosse déception pour moi aussi. Lemire nous a clairement habitués à mieux. Et...
Ah oui, ça c'est clair.
Et... Peut-être qu'à trop en faire, on n'arrive plus à faire tout bien. Parce
ouais.
que le monsieur, il est sur beaucoup, 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 beaucoup de projets. Et moi, depuis quelques semaines, il y a quelques lectures de sa part qui m'ont pas forcément emballé, quoi. Le dernier numéro de Black Hammer, Age of Doom, face facile. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Inferior 5 sur chez DC, c'est pas génial non plus. Bon, il faudrait peut-être soit se recentrer ou alors voilà. Et quand tu passes après Farm End, une fille avec un arbre qui lui pousse dans le dos, je suis.
Oui, ouais, effectivement, ouais, c'est pas. Enfin, j'ai pas trouvé ça mauvais en soi, c'est bien écrit, je trouve que le. Alors, ça doit être Phil Hester.
Phil Hester, oui, il a un style sympa,
Il a un style sympa qui colle bien, je trouve, mais c'est vrai qu'il nous a habitués à mieux et au bout d'un moment, l'émir a tellement de titres en cours que forcément, on est obligé de faire la comparaison, quoi. Et clairement, c'est très faible.
C'est pas au niveau du reste. Tu as quelques secondes si tu souhaites, Boris, pour le défendre.
Moi, je vous ai laissé parler, vous exprimer, donc à moi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt efficace dans la mise en place, je trouve quand même qu'il présente la famille. On voit un peu les relations entre la mère et ses enfants. Il y a le cliffhanger qui m'a surpris, moi. Alors moi, je dois dire, je n'avais pas lu la sollicitation, donc à part le titre, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai plus apprécié.
Sans doute.
Sans doute, ouais.
Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très efficace en termes d'écriture. Alors, effectivement, c'est pour du Lemire, on peut dire que ça manque peut-être un peu d'originalité, de surprise. C'est des thèmes qu'il a déjà utilisés, qu'on a déjà vu chez lui. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt efficace. Et puis, le trait de Philaster, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que le travail sur les ombres, sur les blancs, etc., c'est assez agréable. Donc, moi, j'ai pas été déçu. C'est pas le meilleur Jeff Lemire. Mais j'irai voir la suite en single avec plaisir. Hein.
Tu nous raconteras. Enfin, moi, tu me raconteras en tout cas. Je sais pas si Clément continuera, mais pas moi.
Mais quand même, laisser le bénéfice du.
Ok. Et ben alors, j'attends vos avis pour voir si TP il y aura ou pas. Et puis, à ceux qui nous écoutent, de se faire aussi leur avis et de le partager avec nous. Parce que du coup, clairement, ce titre nous partage. Anthony, si tu es là. Si...
Je suis là.
Oh, c'est parfait. Tu vas pouvoir nous parler de Batman par Tom King. Tu t'es enquillé deux TP.
Ça va vite,
oui,
en même
tout
temps.
Oh.
Et la petite.
Ça y est, je commence.
Non. Disons, la première remarque, c'est que sur le podcast d'avant, j'avais fait le tome 8, là, le tome 9 et du coup 10. En TP, très honnêtement, ça se lit bien. Ça se lit bien. Je peux comprendre si on a les épisodes mensuellement. Bah non, c'est toutes les deux semaines.
Ouais. Deux, trois, des fois, mais ça reste quand même assez régulier sur trois ou deux semaines. Ouais.
Je peux envisager que la lecture en devient assez lassante, mais là, avec un flux continu de pages qui se tournent, on ressent pas ça. Mm-hmm. On ressent pas du tout ça. Donc le tome 8, en fait, le tome 8 et 9, l'objectif, c'est d'acculer Batman. Dos au mur, plutôt. Batman va se retrouver dos au mur, un peu comme un prédateur ultime qui est harcelé par une multitude de charognards. Ces charognards étant menés par le charognard alpha, qui lui, je vais le dévoiler comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Donc c'est Bane. On avait laissé Bane complètement brisé à la fin de
I Am Bane.
I Am Suicide, je crois. Okay. Il me semble, I Am Suicide ou I Am Bane, l'un des deux. Alors là, on a un peu du mal à comprendre comment le colosse met tout ça en scène, puisque chaque vilain de Batman, donc à savoir dans le tome 9, le Pingouin, dans le tome 8, Mr. Freeze et KG Beast, donc le tome 9, le Pingouin, il y a Kite Man et toute une multitude de vilains secondaires comme Killer Moss, il me semble. Mm-hmm. Non, Killer Moss,
ça me dit quelque chose, je m'étais arrêté un petit peu après, mais oui, je crois l'avoir vu passer.
Candyman King, voilà, tous ces personnages vraiment qu'on ne voit apparaître que sur une case de temps en temps vont participer à la paranoïa de Batman qui va tenter de comprendre comment Bane fait pour organiser la satraque à lui, donc à Batman. Et nous, comme le personnage, on va pas réussir à comprendre comment il fait. Par contre, on sait que c'est lui et il n'y a aucun doute sur le coupable. En plus de ça, vient s'ajouter un second Batman qui est le Batman Flashpoint. Le Batman de Flashpoint, c'est Thomas Wayne qui, dans un univers alternatif, est devenu Batman avec un code de l'honneur un petit peu différent.
Un peu.
Le problème, c'est que ça nous ramène à The Button. Donc, qui était Batman
21-22, je crois, de souvenir. Mais...
Voilà, ok, 21-22. À l'issue de The Button, Thomas Wayne s'évanouissait dans un éclat bleu. Et là, 40 numéros après, il est de nouveau bien vivant, mais allié à Bane, plus ou moins. On va se rendre compte qu'il y a une tension entre les deux, entre Bane et. Et Thomas Wayne, et on comprend pas. Il y a énormément de choses qu'on comprend pas. Le tome 9, donc, principalement, met en scène la paranoïa de Batman, qui, lui non plus, ne comprend rien. Sauf que lui, en plus, il ne sait pas que Bane est en pleine maîtrise de ses capacités, ce que nous, lecteurs, savons. C'est toujours aussi hermétique dans le style de King, c'est-à-dire que c'est froid, distant, glacial, émotionnellement ça fait les montagnes russes, c'est-à-dire que il y a des passages où Batman craque, puis celui d'après il est mutique. En plus, l'auteur King se permet de faire tout un arc avec le Pingouin sous forme d'une paraphrase sur un poème de Shakespeare, donc c'est vraiment un exercice de style complètement fou. Et ce tome 9 se conclut par un numéro bonus Secret Files qui est pas super intéressant et un Annual 3 qui est ce numéro classique de Alfred qui est le bon père de Bruce Wayne. Bon,
la fête touchant, des pères, c'est ça. Hein.
C'était ça. Touchant, bien écrit, bien dessiné par Otto Schmidt, mais bon, c'est assez inoffensif. Hein. Mmh. Et donc, ce tome 9, moi, je le trouve plutôt correct sur sa première moitié, puisque sa seconde moitié, c'est du numéro auxiliaire. On en arrive au tome 10, l'arc Nightmares, qui, soi-disant, aurait raccourci le run de Tom King parce que jugé trop nébuleux et que je pense que les ventes n'ont pas suivi. Donc là aussi, c'est un exercice de style à part entière, puisque chaque numéro du numéro 61, 63, puis 66, 69 correspondent à un cauchemar particulier de Batman, une peur. Hein. On sait que Tom King est un auteur assez apeuré, assez possédé par certaines névroses. Bah voilà, là on en a l'exemple. Donc le premier, par exemple, on a ce personnage de Matthew qui se prend pour Bruce Wayne qui revient. Donc la peur de l'enfance et de l'adolescence. Ensuite, on a la peur de l'amour à la fin puisqu'on a tout un numéro de rêve avec Catwoman. L'incompréhension du meurtre puisqu'on a un numéro splendide dessiné par Lee Weeks sur une course poursuite sur les toits. Enfin, voilà, c'est l'incarnation de différents cauchemars, bon, du personnage et indirectement de l'auteur. Alors en TPB ça passe, mais je comprends tout à fait, notamment cet arc-là, qu'en numéro discontinu, ce soit, enfin, c'est complètement indigeste. L'intrigue principale de l'encerclement de Batman, ça continue pas beaucoup, voire pas du tout. On n'en sait pas plus. Ça veut dire qu'on a quand même un TPB qui dure 61, 62, 3, presque 7 numéros où l'intrigue du volume d'avant n'avance pas, sachant que le run de Tom King se finit au numéro 85, plus donc du coup cette mini-série Batman Catwoman, ça lui laisse très peu de temps pour répondre à une multitude de questions, à savoir comment Bane fait pour ni plus ni moins qu'avoir la main mise sur Gotham, pourquoi Thomas Wayne, un, est vivant, et deux, pourquoi il s'est rallié à Bane, pourquoi Catwoman ne revient pas à Bruce. Pour moi c'est mission impossible pour répondre parfaitement à toutes ces questions si l'auteur veut en plus y glisser son message de trauma, de choc, de solitude. Ouais, Nightmares c'est bien parce que c'est dans TPB.
Ouais.
C'est vraiment particulier, hein. C'est vraiment particulier.
En single.
D'ailleurs,
vas-y, je définis.
Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est assez clair, hein, puisque le volume 9, si je prends, ce sont des TPBVO, hein, le volume 9 sur la tranche, il y a écrit Batman The Tyrant Wing, volume 9, et Batman Nightmares, il n'y a pas écrit volume 10. Donc c'est vraiment un volume à part, qui est la suite, mais qui est vraiment une sorte de bulle narrative au milieu de tout ça. Bon, voilà. C'est vraiment particulier.
C'était interminable en single parce que ça a duré quasiment 4 mois. Les deux numéros qui manquent, c'était les deux numéros tie-in à ce superbe Heroes in Crisis, donc passionnant. C'était l'enfer, quoi. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ça va durer combien de temps? Le numéro dont tu parles avec Lee Weeks, je m'en souviens, c'était très beau, mais il se passe rien. Il y a trois bulles de dialogue, je crois.
Oui, bah, il y a. Oui.
Quand tu lis le single que tu as payé 4$, tu commences à 14h02 et qu'à 14h05 tu as terminé, là, tu te dis, mais c'est foutu de moi, quoi. Clairement.
Je le parcours. C'est hallucinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
C'est les trois pages où il y a
6.
Oui, c'est
dans le bar.
Il y a 6 phylactères. Bon, sachant que les bulles dans le bar, ce sont des onomatopées. Hein.
Oui, bah voilà.
On va très vite se calmer. Et il y a 6 phylactères écrits et il y a un gaufrier en 6 avec des bulles de pensée. Ouais, disons qu'artistiquement, ça défonce parce que c'est d'une lisibilité absolue. Mais quand t'as lâché 4€, pour faire simple.
Ça le fait pas, quoi. C'est pour ça que
non, ça marche pas.
Ça pique un peu. Après, du coup, bah forcément, on baisse les bras. Et peut-être on a baissé les bras au mauvais moment parce que il y a quelques spoilers sur l'arc avec Bane qui va suivre, qui sont quand même intéressants. La cover du numéro 83, je crois que c'est celui-là qui vient de sortir, est une cover hyper spoilante. Par rapport à Bane, par rapport au Batman Flashpoint et tout ça. Ça pique la curiosité malgré tout. Donc peut-être en TP pour ce dernier acte, je prendrais. Mais
C'est ce que je me disais. Moi, je pensais finir en TP, mais franchement, enfin, les échos VO que j'ai là, franchement, ça donne pas envie. Enfin, okay. Je trouve que. Si. Je pensais finir avec la mini-série là, qui fait Catwoman Batman. Catwoman, je ne sais plus dans quel ordre. Mais je crois que je vais carrément laisser tomber, quoi, parce que. Il nous aura quand même bien mené en bateau. Et puis le fait de dire que c'est Bane qui, depuis le début, a tout manigancé et tout, je trouve ça tellement gros, quoi. Et pas crédible.
Bah ouais.
C'est crédible si t'as 15 numéros derrière pour nous faire une conclusion, là où tu nous as mis 70 numéros pour nous masquer le truc.
Après, voilà, grâce. Enfin, Boris, toi qui ne lis plus, Anthony ne va surtout pas l'avoir, mais Boris, toi qui ne lis plus, va regarder la cover du 83, tu comprendras.
Ok, voilà. Mais bon, il a quand même passé plein de numéros à rien nous raconter quand même, avant le mariage, etc.
Ah bah ça, on va pas refaire le match, c'est clair.
S'il avait densifié son intrigue, ça aurait été sans doute nettement mieux.
Et, je peux me permettre une dernière remarque. Mm-hmm. En fait, ce volume 10, il aurait fallu que ce soit des numéros annuels. Là, ça marche. Par contre, effectivement, je l'ai devant les yeux, il y a quelques scènes qui se passe dans le temps présent, c'est-à-dire dans la suite du 9, où tu as une page où par exemple tu as Batman qui est attaché sur une chaise où on a l'air de lui injecter la toxine du Scarecrow. Donc ça, comment tu passes de la fin du volume 9 à ça, j'en sais rien. Et le numéro 69, qui est un numéro splendide pour le coup, dessiné par Wonder Woman Earth One, par Paquette. Yannick Paquette. Ouais, Yannick Paquette, qui bon, absolument renversant dans les compositions, avec un miroir en fait qui est construit par une danse de Batman Catwoman qui, en passant de case en case, Batman revit dans son rêve des souvenirs. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est absolument splendide à regarder. Et au milieu de ce numéro-là, il y a des scènes de lutte où Bane est nu et se bat contre Thomas Wayne, qui lui est en pantalon Adidas blanc. Et tu comprends que les deux sont alliés sans être alliés. Je pense que ces passages-là ont été imposés parce que, d'une manière ou d'une autre, le directeur du Bat-Univers a dû dire il faut que tu fasses à minima avancer les choses, sinon on ne comprend rien.
Non, mais je pense que si on relisait tout depuis le début, on verrait qu'effectivement, Tom King a construit son run. Mais c'est l'écriture qui fonctionne pas, quoi. C'est la décompression permanente qui fait qu'on se lasse et que en single, enfin, il écrit pas pour du single, quoi. Cas sur Batman.
Non, il écrit pas pour du single. C'est pour ça que même en TPB, quand tu le refermes, tu te dis bon, bah j'en sais pas forcément plus que le volume 9 d'avant. Et ça m'a coûté 15 ou 16 € en plus. Ouais. Que je l'ai lu d'une traite, certes, mais ça m'a coûté 16 € en plus. Moi, j'irai voir la suite parce qu'il écrit Batman sur la couverture, mais bon.
Après, le point positif, c'est qu'il a eu que des artistes d'excellente qualité. C'est sans doute au niveau mainstream ce qui se fait de mieux actuellement. Quoi.
Oh, artistiquement, ça défonce. Très rapidement, la liste: Travis Moore, Mitch Gerard, Michael Ranin, George Font, Lee Weeks, donc Amanda Conner, c'est visuellement horrible, Dan Panosian, John Timms et l'œuvre d'art de Yannick Paquette. Donc oui, c'est du lourd.
Voilà, puis avant, il y avait eu Joel Jones sur quelques arcs, etc. Donc il y a vraiment de grands artistes, quoi. Mais bon, il a quand même réussi en single à faire baisser les ventes de façon catastrophique, hein, sur Batman.
Après, il fait baisser les ventes au numéro 70, hein. C'est pas non plus...
Oui, mais bon, c'est faible pour du Batman. Normalement, Batman, c'est la locomotive de DC, quoi. Donc,
Effectivement. Assez incompréhensible de faire un arc, effectivement, Nightmares, détaché en 10 numéros au numéro 70, là où il faut gonfler les ventes, enfin, où il faut essayer de maintenir à flot les ventes. Tu te permets un arc plus philosophique que à la suite du wagon. Osé, ouais. Complètement osé.
Moi, j'ai regardé la cover du 83.
Tu comprends maintenant,
Mathieu. Je comprends, mais je me dis que ça se trouve, en regardant juste les covers, je peux peut-être.
Tu peux peut-être comprendre. Ouais.
Peut-être faire ça.
Bon, allez, on va passer à autre chose. On va enchaîner parce qu'on a encore pas mal de trucs dans le programme. Je vais le faire du coup avec Something Is Killing the Children. Un projet Boom Studio qui fait beaucoup parler de lui de par ses multiples tirages du numéro 1, comme si la technique d'en imprimer peu pour dire on imprime beaucoup de tirages du numéro 1 fait que ça devient hype. Et du coup, on a tous envie de lire ça. Par chance, j'avais fait mes précos avant, j'avais repéré grâce à James Tynion IV que peut-être ça pourrait être intéressant. Et bah, c'est pas peut-être, c'est intéressant. Something is Killing the Children nous parle de la ville d'Archer's Peak où des jeunes, des ados, des pré-ados disparaissent mystérieusement. La plupart ne reviennent pas et ceux qui reviennent sont complètement perturbés et racontent des histoires assez étranges et incompréhensibles de créatures qui les auraient enlevés, qui vivent un peu dans l'ombre de la ville, etc. Enfin, des créatures un peu monstrueuses. Voilà, donc, les croire ou pas les croire. On suit le personnage de James. Oui, James, comme le scénariste James Tynion IV. Et en plus, quand on sait à quoi ressemble le scénariste et qu'on voit comment est dépeint le personnage, on ne peut que faire un parallèle avec lui. Donc, y a-t-il un lien? Est-ce qu'il nous raconte des peurs secrètes qui viennent de lui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le parallèle est obligatoire, quoi. Enfin, visuellement, c'est lui. C'est lui plus jeune. Et en plus, il porte le même prénom. Donc James, lui, a vécu la disparition d'une bande de potes qui ont disparu un soir. Et c'est le seul à ne pas avoir disparu. Et du coup, bah, il se pose la question, pourquoi pas lui? Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Est-ce que ces monstres existent? Et puis tout ça va bouger un peu avec l'arrivée de Erika dans la ville. Erika, elle, ce qu'elle prétend, c'est qu'elle voit. Elle voit tout ce que les autres, les survivants, racontent. Et elle, son job, c'est de tuer ces créatures. Peu importe le coup, elle les tue. Voilà un peu l'histoire, un peu dans quel univers on se situe. C'est super bien écrit. C'est du James Tynion IV, ça, voilà. Donc on est plutôt confortable quand on part sur un projet du monsieur. Les dessins sont de Werther, je sais pas comment dire, Del Edera. Un illustre inconnu pour moi, je n'avais jamais rien vu de lui. Et ça marche. Graphiquement, je sais pas où James Tynion IV l'a dégoté, mais c'était visiblement le choix qu'il fallait faire pour cette série, parce que le tandem fonctionne super bien. Petite mini-série, je crois en 5 ou 6 numéros, je ne sais plus. On en est à 2 ou 3 de sortie. Moi j'ai lu les deux premiers pour le moment et bah, franchement ouais je suis accroché, je suis bien bien accroché et je vais aller clairement au bout de ça. James Tynion IV dans l'horrifique, on avait déjà lu ça sur certains projets, notamment un dont j'ai oublié le nom sur qui se passait à la Maison Blanche, bref, qui est sorti il y a quelques années. Voilà, c'est cool, ça marche, c'est beau visuellement et voilà, moi ça m'intéresse, donc ouais, j'ai hâte que ça aille au bout pour voir un petit peu qu'est-ce que le père Tynion avait envie de nous raconter. Et je serais curieux vraiment de savoir si ce James est lié à lui ou pas, si c'est une coïncidence qui lui ressemble trait pour trait. Voilà, tout ça m'intrigue un peu. Boris, je crois que tu lis ça toi aussi.
Ouais, je suis aussi, ouais. Donc j'en suis comme toi au 2, j'ai le 3, mais je l'ai pas encore lu. Mais pareil, j'ai accroché tout de suite. La patte graphique est vraiment originale et fonctionne super bien avec les couleurs. Il y a un vrai travail sur les couleurs, c'est vraiment, vraiment très bon. Alors après, je ne voudrais pas t'inquiéter et te décevoir, mais j'avais cru voir ça et je suis en train de vérifier que c'est passé en ongoing maintenant.
Oh, bah ça ne me déçoit pas. Enfin, ça m'inquiète pas, ça me déçoit.
Non, mais je pensais que tu étais content que ça soit voilà, prévu en 5 et que ça se termine, parce que des fois, les séries, quand elles se tirent, ça devient un peu pénible. Et puis là, je pense qu'ils ont transformé en ongoing parce que le premier a eu un tirage de malade.
Ouais, et puis je pense que James Tynion IV avait pas mal de choses à raconter et que on est dans l'indé, on est dans les trucs à peut-être plus faible budget, etc. Donc on se teste avec un premier arc. Si le public derrière suit, bah on continue comme c'était prévu. Donc ça me.
Ouais, non, je pense que c'est ça, ouais, effectivement. Mais c'est vraiment très 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 bon, ouais. Vraiment très agréable. Moi, James Tynion IV, j'ai pas lu tout ce qu'il a fait, mais pour l'instant, ce que j'ai lu de lui entre Detective Comics, Justice League Dark et cette série, y a rien acheté là. Hein. C'est vraiment.
Oui.
C'est vraiment très bon. Et là, il va venir sur Batman. Oui, on va pouvoir relire du Batman. C'est fantastique.
Ouais, ne nous emballons pas.
Hein. Ah bon. Alors, il va devoir utiliser les conséquences du Run the King. Donc peut-être que ça va peut-être pas nous plaire forcément. Mais,
son job n'est que de nous emmener au numéro 100. Ah, ouais. Le projet dont je parlais, par rapport à la Maison Blanche, tout ça un peu horrifique, c'était The Ace Seal, le 8e saut.
Je connais pas.
Très très bon, là aussi. On va rester un petit peu dans l'horreur. On a quelques titres un peu horrifiques là, à suivre dans cet épisode. Tu vas continuer, tu vas nous parler du label de Joe Hill chez DC, le Hill House Comics. Tu vas nous parler du titre Dollhouse Family.
Tout à fait. Alors, le Hill House Comics. Au début, j'étais un peu sceptique, mais bien tenté, parce que Joe Hill, j'oublie à chaque fois le nom, comment ça s'appelle sa série avec...
Lock and Key.
Merci, Lock and Key. C'était énorme, quand même, cette série. Et j'ai été voir le premier, The Basketful of Head, c'était très très bon. Et là, je suis allé voir cette deuxième série, donc scénarisé par Mike Carey et dessiné par Peter Gross, qui avait créé The Unwritten. Mm-hmm. Donc je ne l'ai lu que les deux premiers tomes, puisque Urban a laissé tomber la série, hein. Encore une fois, après Panini. Et donc, c'est effectivement un peu, enfin pas un peu, beaucoup dans l'esprit horrifique, comme tu l'as dit. Donc ça se passe, pour faire simple, je ne vais pas tout dévoiler évidemment, ça se passe sur deux époques. Une première époque... début du XXe siècle, deux scientifiques qui, en faisant des repérages, des mesures, découvrent dans une grotte une sorte de monstre un peu étrange. Voilà, ça c'est une partie. Et puis la deuxième partie, ça se passe dans les années 80. Une famille constituée des deux parents et d'une petite fille reçoivent en héritage d'un parent éloigné dont ils n'ont pas trop entendu parler depuis longtemps, une maison de poupées. Alors c'est une partie de la famille qui est réputée comme étant un peu fêlée. Donc ils reçoivent une maison de poupée, la petite fille est super ravie, elle veut jouer, garder la maison. Le père est pas trop chaud parce que lui il connaît la famille. Voilà, donc on pas trop d'indications, mais bon, il y a un petit suspense là-dessus. C'est une famille socialement un peu en difficulté. Le père ne travaille pas vraiment et puis il frappe sa femme. Enfin voilà, c'est un contexte social assez dur. Et la petite fille va jouer avec ses poupées et les poupées vont se mettre à lui parler. Et puis voilà, elle va entrer dans ce monde et ça va bouleverser son existence. Et évidemment, il va y avoir un petit peu d'horreur quand même à un moment ou à un autre. Et j'ai trouvé ça hyper efficace aussi, tout très bien écrit. L'alternance de la partie passée, présent est bien, bien rythmée. C'est bien dialogué par Mike Carey. Et on rentre dedans immédiatement. Alors, j'en avais déjà un peu parlé, ça me fait penser au comics, ici comics des années 50. Alors c'était des one shot, des épisodes, un épisode d'une histoire, où il y avait souvent un contexte social un peu particulier. Alors ça dénonçait le racisme, la misère, etc. Et forcément une tonalité horrifique ou science-fictionnelle, ce genre de choses. Mais bon, il y avait une partie avec l'horreur. Et c'est exactement construit un peu comme ça, quoi. Ça repose sur ces deux domaines et ça fonctionne très bien. Alors là, c'est pas un épisode d'une histoire puisque bon, ça va se poursuivre. Je crois que c'est une mini en 6 ou 7 ou 5, je sais plus. Ouais, enfin, je crois que toutes les séries du label sont construites sur ce nombre d'épisodes. Et franchement, très bon. Là, ça fait deux séries ce label là, impeccable. C'est vraiment différent. Ça sort chez DC, mais c'est autre chose que le super-héroïque habituel. Et vraiment très 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 agréable. Et ça m'a donné envie de poursuivre. Donc il y en a d'autres qui vont sortir, notamment Daphne Byrne qui sera dessiné par Kelly Jones. Donc ça peut être pas mal. Hein. Après les scénaristes qui vont venir, je connais pas forcément. Alors il y aura une troisième série scénarisée aussi par Joe Hill. Mm-hmm. Moi, je crois que je vais tout tester, hein. et puis on verra
si c'est bien. Oui, au moins sur un numéro 1, et puis voilà.
Voilà, je conseille pour les amateurs de suspense et d'horreur, allez-y.
Je n'ai pas encore eu Dollhouse, j'ai lu l'autre, un peu long à démarrer, mais plutôt solide, donc c'est plutôt bien embarqué.
C'est ce que j'avais trouvé aussi, ouais, Basketful of Ed. Ouais. C'est vrai que le côté horrifique arrivait que sur la dernière page, on va dire, c'est là où on commençait un peu à flipper. Mais j'ai trouvé que l'épisode était vraiment bien écrit, quoi. L'installation de l'univers et de tout le contexte.
Oui, il a posé son truc, c'est bien.
Ouais, je pense que ça va donner, ça va être pas mal.
Allez, on reste dans le sombre, le glauque, un peu horrifique aussi. Clément, est-ce que Farmhand, pour son troisième arc, ça continue bien? Parce que le 11, c'est le début du troisième arc.
Oui, donc c'est le début du troisième arc. Alors, je crois qu'il est sorti cette semaine. Si je dis pas de bêtises.
Ouais, il est tout récent, ouais. Ouais, je l'ai pas encore reçu, donc ça va être les. Ouais.
J'ai réussi à l'avoir cette semaine. J'avoue que c'est un peu dur parce que je me souviens plus trop comment s'est terminé le deuxième arc, même si j'ai bien en souvenir, que le récit de Farmhand s'est tourné vers un récit plus horrifique. Et du coup, pour ce troisième arc, ça commence très bien. Manifestement, le troisième arc va être celui des révélations. Mmh. On a eu surtout là un retour vers le passé, si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Et avec toujours... On ne sait jamais. Hein.
Tu nous inquiètes, là.
Il vaut mieux prendre des pincettes, parce que si dans un mois, quand on revient et on dit « mais en fait, il n'a rien compris, il a raconté de la merde », quand nous, on va parler du 12...
Exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire du coup? Je ne sais plus.
Que c'est parti pour être l'arc des révélations.
Ouais, l'arc des révélations, et surtout il y a toujours cette ambiance de mystère et aussi un peu horrifique, quoi. C'est assez surprenant, mais c'est génial, hein. C'est dans la lignée de ce qu'on a depuis le deuxième arc et même depuis le premier, donc c'est très cool. Et l'auteur, à la fin, là, il fait toujours une page où il écrit quelque chose. Donc, il rappelle d'une part que AMC a posé une option sur l'adaptation de la série, qu'il est en train d'écrire le comment on appelle ça ?
Le pilote.
Le pilote, c'est ça. Et surtout, il rappelle que l'histoire est conçue pour durer 30 numéros.
C'est bien donc, d'annoncer comme ça.
Ouais, donc on a encore... on a encore de la lecture en perspective, mais c'est vraiment c'était vraiment très bon. Je crois que j'ai lu Farm End juste après Family Tree, donc pour le coup ah, il y a quand même une différence hein,
vous acharnez là, vous acharnez.
Non, c'était un petit coup de pied dans les côtes en passant, c'est bien je trouve.
C'est ça. Et mais c'était très dense, le numéro était très dense, donc vraiment ouais. Vraiment bien.
Ouais, mais beaucoup de séries lues après Farm End paraissent fades quand même. C'est quand même une excellente série.
Ah oui, ça c'est clair.
Pas de... c'est le haut du panier en ce moment chez Image, c'est clair. C'est bon. Clair.
J'en ai eu que la moitié, moi, du 11. J'ai pas réussi à le finir avant.
C'est
avant
con, ça d'être coupé en deux hein, au milieu de ça.
Ouais,
c'est pas grave.
Tu
mais
dangereusement, toi.
Voilà, la moitié que j'ai lue, je confirme ce que dit Clément. C'est okay. Vraiment.
Donc il a bien compris. Et... du coup.
Je dis pas n'importe quoi.
Et oui, effectivement, dès la première moitié, on sent qu'il va y avoir des révélations. Après, j'ai pas la suite, donc je peux pas confirmer complètement ce que raconte Clément. Mais okay. C'est un bon début, en tout cas. Son explication était à peu près crédible.
Ok, ok.
Pour une fois.
Allez, on va enchaîner avec Erwan, toujours dans l'horrifique. Puis cette fois, on va se tourner du côté des zombies avec Deceased.
Ouais, Deceased, la série aux odeurs, hein, je pense, pour.
Ouais.
Pour Urban, puisqu'ils ont en plus annoncé qu'ils ressentaient encore des covers alternatifs pour Angoulême.
Je crois qu'on arrive à 8 ou 9 covers.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Ouais.
Ils font très fort. Mais bon. Je pense qu'en tout cas, c'est. Alors, je sais pas si c'est mérité, mais. Voilà, y a cette série, je pense qu'il faut la lire, elle est intéressante. Donc, c'est Tom Taylor au scénario qui s'est déjà bien éclaté sur Injustice. Et on sent vraiment que c'est lui qui a écrit Injustice, puisqu'on retrouve en fait le même schéma dedans, puisqu'il s'amuse avec aussi bien les héros normaux qu'on connaît et avec la magie. Donc là, ça c'est cool. Au dessin, on retrouve Trevor Hersine et Stefano Godiano. Donc, faut aimer le style, parce que c'est un peu particulier, hein, Stefano Godiano pour The Walking Dead. Pour l'histoire, globalement, c'est à part le début qui est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que ça sort un peu de nulle part. En gros, le début, c'est Darkseid qui veut compléter l'équation d'Antivie pour avoir le pouvoir absolu, en fait. Et donc, il dit qu'il a déjà une moitié de l'équation et l'autre moitié se trouverait dans Cyborg. Sauf qu'en essayant de la récupérer, il va rater, et il va la modifier cette équation et donc contaminer Cyborg, qui en retournant sur la Terre va contaminer digitalement la planète. Et chaque personne se retrouvant face à un écran contaminé se transforme en zombie.
Drôle.
Ce qui fait que la pandémie,
c'est rapide dans notre monde.
Société, comment elle fonctionne, c'est très rapide. Sauf que du coup, il n'y a pas que les humains, il y a aussi les héros qui sont concernés. Donc certains héros vont être contaminés dès le début. Et ceux qui n'ont pas été contaminés vont essayer de survivre. C'est super intéressant en fait, parce qu'on se demande en fait, comme je disais entre nous quand on en parlait, c'est vraiment comme dans Injustice, comme c'est une série qui est vraiment à part, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc en fait, Tom Taylor peut vraiment s'éclater à tuer n'importe quel héros, ou en tout cas à le contaminer. Ouais. L'aspect zombie sur certains personnages, notamment, bon, je vais le dire, mais ça ne spoil pas, mais sur les Birds of Prey, de les voir en zombie, ça a une classe absolue, et c'est vraiment trop beau. Et donc il y a une suite qui est prévue, ça a été annoncé, ça le mérite. Et après on peut se poser la question, puisque quand ils sont zombies, bah forcément leur but c'est de tuer et de contaminer. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si tel héros était contaminé? On pense notamment à Superman, s'il était contaminé, bah qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait directement la fin du monde? Est-ce que c'était Flash? Qu'est-ce qui se passerait? C'était Batman, etc. Donc c'est super intéressant en fait comme point de vue. Ça a été assez critiqué, je me souviens, quand c'est sorti, hein, il me semble. On se demande ce que ça venait faire là comme titre.
Oui, on sort sur Walking Dead, on fait une parodie de Marvel Zombie, tout ça. Enfin, oui, on a entendu tout ça.
On l'a entendu et je trouve que ça sent... Ouais, c'est plutôt intéressant en fait. Tom Taylor a vraiment géré ce qu'il a fait, son histoire, elle est vraiment propre. Donc je pense qu'Urban a raison de mettre... Alors peut-être pas autant de covers, parce que c'est quand même pas abusé d'avoir mettre 4 Tormal et 4 pour Angoulême, c'est beaucoup. Mais voilà, je pense que voilà, ils vont faire des bonnes ventes. En tout cas, j'espère, je leur souhaite.
J'en serais, moi, parce que j'avais lu le numéro 1 en VO Et puis, visiblement, ça, au niveau qualité, ça a bien augmenté ensuite. Donc, je pense que je vais tenter une des 8 versions urbaines.
Alors, moi, j'avais aussi lu le numéro 1, qui m'avait plutôt plu, mais je m'étais dit plutôt le truc à lire d'une traite. Donc, je vais attendre le relier. Mon relier a pris un peu de retard, puisque moi, j'aime bien aller fouiner quand des trucs sortent sur Forbidden Planet, parce que des fois, il y a des petites éditions signées, des trucs comme ça. Et du coup, il y en avait une qui était signée par les 3 artistes au même prix que la normale. Donc j'ai commandé chez eux et ça arrivera juste une ou deux semaines plus tard, donc le temps de faire les signatures. Donc du coup il me tarde à force d'entendre parler de tout ça, de voir un petit peu vers où ça va.
Mais Tom Taylor est bon sur ses univers alternatifs, hein. Quand il a quartier libre, il a de bonnes idées et gère bien ses histoires.
Allez Boris, encore à toi. Ah, et on est toujours un peu dans le glauque, hein, si je me rappelle bien de ce qu'est cette série. Ice Cream Man.
Ouais, dans le glauque et surtout dans le bizarre. Hein.
Ouais.
Donc Ice Cream Man, j'ai fini par craquer. Ça fait longtemps que cette série a commencé en single. J'étais tenté, et puis j'hésitais, mais là je me suis pris le volume 1, donc qui doit dater de presque un an peut-être.
Je sais. Parce que je crois qu'on a notre troisième arc au moins là en ce moment. Donc...
Ouais, le TP4 va sortir, donc on doit être bien avancé. Donc, ce sont des épisodes one-shot, des histoires par épisode, et qui ont un seul point commun, on va dire, c'est l'intervention d'un marchand de glace, l'Ice Cream Man, qui va intervenir plus ou moins. Il y a des histoires où il intervient très peu, et des histoires où il intervient beaucoup. Et à chaque fois, c'est des personnes un peu paumées, voilà, un peu dans la misère, soit sociale... ce genre de choses, et à qui va arriver des trucs assez incroyables, hein, sur des histoires sur lesquelles ils n'ont pas d'emprise, en fait. Ils sont complètement dépassés par les choses. Et à chaque fois, il y a évidemment un côté très sombre, très glauque, comme tu l'as dit, qu'on ne voit pas forcément venir. C'est plutôt bien, bien fichu. Le dernier, alors il y a les 4 premiers dans le premier TP, et dans le dernier épisode, à la fin, on commence à voir un petit peu quelques petites pistes sur ce fameux marchand de glace. Je pense qu'au fur et à mesure de la série, ils vont glisser des petits indices pour savoir pourquoi il est là, pourquoi il intervient, pourquoi ça se passe comme ça, quoi. Mais c'est totalement étrange, mais vraiment assez intéressant à lire, quoi. Je pense que sur la longueur, il y a des épisodes qui seront peut-être plus ou moins bons, mais l'ensemble forme vraiment une œuvre très originale, totalement barrée. Les dessins sont un petit peu, au niveau des visages notamment, pas faciles d'accès. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais en termes de décor et de composition, c'est plutôt bon. On rentre bien dans les histoires. Et je suis bien content de m'être lancé. Je vais continuer, je pense, en prenant les autres TP.
Okay.
Et là, je pense que je vais suivre en single après, parce qu'en fait, acheter les TP, c'est plus cher qu'acheter les singles. Donc,
chez certains éditeurs, ouais, ça peut arriver.
Là, chez Image, c'est 17$ les 4 épisodes dans TP, et 4x4, si je me trompe pas, hein, 4x4, 16.
Avec donc, le jeu du change sur Arconia, tu es gagnant, effectivement.
Donc, je crois qu'à partir du. C'est l'équivalent du tome 5, hein, du volume 5. Je vais prendre.
Oui, quitte à les lire une fois que tu as rattrapé le reste. Mais...
Voilà, ouais. Alors, je n'ai pas donné les crédits, évidemment. Je fais tout à l'envers. C'est Maxwell Prince au scénario et Martine Morazzo au dessin. Et je conseille, c'est pour les amateurs d'étranges et de séries différentes. Voilà.
Ça fait partie des choses où je me dis un jour peut-être quand tu auras le temps.
Bah, vas-y, lance-toi.
Je la regarde de loin, quoi. Je pense que je vais la regarder de loin longtemps parce que le temps.
Mais bon, je conseille, voilà, pour lire quelque chose de différent.
Ouais, non, c'est bien. Alors là, on va passer à complètement différent pour le coup. Là, c'est fini l'ambiance glauque, horreur et machin. On va repartir dans l'enfantin. Une petite série chez DC, dans le label DC Zoom. Je crois que c'est Erwan qui nous avait parlé du tome 1 il y a quelques mois. C'est Super Sons de Riley Pearson avec des dessins de Hailey Gonzalez. On est donc sur le book 2 qui s'intitule The Foxglove Mission. Comme Erwan, j'avais bien aimé le premier. C'est plutôt frais, une autre façon d'écrire les Super Sons, donc John Kent et Damian Wayne. On leur associait deux jeunes filles, etc. Enfin, la dynamique était plutôt sympa, c'était assez rafraîchissant à une période où on était en plein dans l'infâme Adventures of the Super Sons. Ça permettait de continuer à suivre les persos, voilà. Deuxième bouquin a un peu refroidi, je dois avouer. Il est trop beaucoup de choses. Il est trop simple, trop moralisateur, trop jeune aussi, et trop rapide. Et du coup, ben, enfin, moi, ça l'a moins fait. Ça l'a moins fait que sur le premier. Quand je parle moralisateur, c'est-à-dire on sent vraiment que c'est un truc pour le jeune public. Hein, DC Zoom, c'est plutôt 8-12 en termes d'âge, 8-12 ans. Et c'est très, très bon esprit, bonne morale. Il y a même des moments où clairement on voit que les auteurs cherchent à apprendre du vocabulaire aux enfants avec le mot antidote. Enfin voilà, il y a plein de petites intentions comme ça qui sont lues par un adulte, enfin qui paraissent évidentes et balancées à la figure de manière un peu grossière. Et du coup, autant le premier épisode, le premier tome fonctionnait bien, ça a bien fonctionné sur moi en tant qu'adulte, autant le deuxième moins. Pourtant, l'histoire continue, enfin continue son déroulé, etc. Mais voilà, on voit plus là les grosses ficelles et le fait que c'est tourné pour des enfants et qu'il faut leur apprendre à protéger la planète parce que l'environnement, tout ça, et qu'il faut des bonnes valeurs. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont trop trop présentes et c'était présent dans le tome 1 mais de manière plus discrète et plus subtile. Là voilà, un peu déçu par celui-ci et ça va super vite, ça se lit super vite. C'est assez léger, mine de rien, en termes de contenu, même s'il se passe des choses. Voilà, je comprends, hein, c'est du jeune public, je suis pas la cible pour ça. Voilà, j'irai lire le troisième, parce que c'est une trilogie et que ça coûte pas cher du tout, quand même. Donc voilà, j'aurai au moins la conclusion de l'histoire, mais c'est vrai que ce deuxième m'a un peu refroidi. Je crois qu'Erwan, tu l'as au moins commencé.
Je l'ai même terminé et même avec toi au final, c'est que quand j'ai commencé le deuxième, je me suis dit, mais ça parlait pas de ça le premier. J'ai l'impression d'avoir lu un autre tome en fait, une autre histoire et ça m'a perturbé, je retrouvais pas le même univers. Et comme tu as dit, hein, c'est super enfantin, c'est. Ouais, je sais pas, c'est. Ouais, j'ai pas de mots, je suis déçu en fait. Je m'attendais à un super truc et je suis déçu. Mais après, voilà, c'est un truc pour enfants donc
On a un
on
truc
s'est
pour
fait
enfants.
leurrer par le premier, je pense.
Peut-être, peut-être.
Je sais pas.
Tu iras au troisième aussi, je pense, non?
Bah oui, on va pas s'arrêter en milieu de parcours.
Oui, puis on sait jamais, ça peut. Une bonne surprise, on n'est pas à
Oui.
l'abri. Voilà, bon, bah, suivez sur le troisième, on verra du coup si ça confirme le premier ou si ça suit la malheureuse direction du deuxième. Et puis Clément, toi, alors tu nous as mal parlé de Jeff Lemire, vilain garçon, au tout début de la section VO. Il y a un autre projet à lui, encore un, qui est sorti là, c'est The Question.
Oui.
C'est dans le Black Label aussi.
Oui.
Et vas-y.
Alors, pour le coup, j'étais en terrain inconnu parce que c'est un personnage que je ne connais absolument pas. Donc voilà, je partais avec
Beaucoup de
sans
questions.
vrai, de questions et surtout sans a priori. Et alors,
Les
déjà,
gens, ça
le.
fonctionne pas.
De
Non,
quoi? c'était trop,
Ah oui,
c'était trop
d'accord.
fin. C'était trop fin, et pourtant,
trop subtil.
Effectivement.
Allez, vas-y, continue.
Donc c'est assez dense, hein, je sais pas combien de pages, mais pour le coup, ça m'a demandé un peu de temps pour le lire, surtout que c'est très dense. Moi j'ai plutôt bien aimé. Il y a un aspect enquête qui m'a beaucoup plu. Je trouve que le style, alors j'ai plus le nom en tête de l'auteur.
Jeff Lemire, on te dit.
Non, pas Jeff Lemire, l'éditeur, pardon.
Denis Cowan est ancré par Bill Sienkiewicz
C'est ça.
Pas
et
des
colorisé par Chris Sotomayor.
C'est
Je
ça. Et
le
ben,
trie, je l'ai sous les yeux, donc c'est
je
facile.
trouve que le style de dessin bah, convient parfaitement au récit. Et ma foi, bah, blindé de questions. De questions après tout ça, c'est très intrigant. C'est très intrigant. J'ai trouvé que ça s'enchaînait plutôt bien écrit. Donc, je trouve que c'est un bon premier, un bon premier numéro. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai bien aimé. Je lirai la suite sans aucune hésitation. Mais très dense. Là, pour le coup, j'ai eu le sentiment par moment que ça partait peut-être un peu dans tous les sens. J'ai eu du mal à suivre par moment. Donc, faudrait sans doute que je le relise pour digérer tout ça. Mais ça reste bon.
Boris, tu as dû jeter
Ouais.
un œil à ça, toi.
Ça y est, c'est lu.
C'est
C'est
lu?
lu. Ouais, c'est long. Effectivement, c'est dense. Il faut. Je l'ai lu en plusieurs fois. Mais pareil, même avis globalement. C'est du très bon Jeff Lemire. Alors moi aussi, j'y allais en terrain inconnu puisque je connaissais pas du tout ce personnage, juste de nom. Et malgré tout, on arrive quand même à suivre. Hein. Il y a tous les petits mystères, on va dire. ne gêne pas la lecture. C'est effectivement, il y a le côté enquête, il y a le côté polar, voilà, qui est vraiment bien ouais. fichu. Il y a un côté très un peu fantastique, notamment sur la fin là, avec le cliffhanger.
Ah oui, c'est vrai, excellent
voilà,
d'ailleurs.
Une partie un peu fantastique. Et non, c'est du très bon Jeff Lemire. Et puis la partie graphique, c'est une grosse claque. Moi, j'ai vraiment.
Et surtout la fin, les dernières pages quand on bascule en fait. Et c'est là où c'est fort. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais quand on bascule du côté détective, un côté qui est plus fantastique, et ben même dans, alors je peux me tromper, mais même j'ai eu le sentiment, même dans la manière dont ça a été dessiné, qu'il y a eu un changement et ça donne des cases sublimes. J'ai trouvé que le passage vraiment vraiment fabuleux.
Et la colorisation, moi je trouvais sublime.
Complètement.
Le dessin donne un aspect sombre, glauque, un peu dark. Ouais. Notamment avec l'ancrage de Bill Sienkiewicz, l'a fait de hachures assez violentes, ouais. on va dire. Et les couleurs de Sotomayor amènent une vraie luminosité, quoi. C'est à la fois sombre et lumineux. Et franchement, ça vaut le format, le grand format Black Label.
Totalement.
Ça le mérite totalement. Alors moi, deux bémols. Pas liés à l'histoire du tout. Mais premièrement, on aura le 2 que dans 2 mois. Donc j'ai un petit peu peur.
C'est souvent le cas dans Black Label. Hein.
Alors j'ai pas suivi. Je croyais que c'était tous les mois.
Batman Damned, c'était tous les 2 mois. Joker, Harley, Criminal Sanity, c'est tous les 2 mois aussi. Enfin, c'est presque propre au label.
Batman Damned, c'était pas grave, mais là, ça. C'est un peu... Non, mais j'ai un peu peur, quoi, là, que dans deux mois, il y a problème pour pouvoir lire le 2. Donc,
ouais.
Et je pense que c'est une mini-série en 4. On peut imaginer qu'ils peuvent prévoir quand même avoir quasiment fini la série quand ils commencent à lancer le numéro 1.
Ouais, mais comme ça permet de croire que t'as moins attendu entre deux Doomsday Clock.
je m'en fous, moi je lis pas ça. Donc...
C'est une technique en fait. C'est un gros complot.
Voilà. Et puis le deuxième bémol, c'est ce Black Label qui, le grand format est mérité. Bon, après, c'est vendu 7$ quand même.
Mais c'est plus grand,
oui, je sais bien. Mais alors, le Black Label, il y a tout. C'est-à-dire que ce dont on a parlé tout à l'heure, le Joe Hill, Print Joe Hill, c'est des formats singles normaux. Oui, on va dire normaux. Hein. C'est du Black Label. Le Harleen, c'est du Black Label, mais il y a 2 fois plus de pages. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans ce nouveau format. Quoi.
Bah, t'as le format classique et le format prestige. Comment ils appellent ça? De prestige, je ne sais pas quoi. Enfin, il a un nom maintenant, ce format-là.
C'est le prix prestige, c'est ça? Ils vendent ça plus cher.
Ah bah oui, donc, le format est prestige, le prix est prestige. C'est clair.
Et Urban a lancé le même label, hein, a repris l'idée. Et ils fourrent tout aussi un peu dedans, quoi, parce qu'ils vont remettre les mêmes titres qui sortent actuellement, mais ils mettent par exemple The New Frontier qui va sortir la semaine prochaine. Je vois pas trop ce que ça fout dans le Black Label, par exemple. Je pense qu'ils mettent des choses,
DC l'a mis aussi dedans en fait, hein, et ils mettent Batman Year One, ils mettent plein de trucs en fait maintenant dans le Black Label. Donc du coup, Urban fait pareil, ça permet de faire une nouvelle édition en plus.
C'est pas très cohérent, quoi. Je trouve que c'est un peu fourre-tout, quoi.
De Snyder n'est pas dans le Black Label.
Le
Batman Who Laughs de Snyder n'est pas dans le Black Label.
Je crois pas.
Non, mais
quand il a commencé, il ne devait pas y avoir encore le Black Label, je pense. Si
Là, c'est vraiment lié à l'univers proper et tout, à la continuité actuelle. Donc,
c'est vrai que le Black Label, c'est
c'est tous ces trucs un peu à part. C'est le nouveau Vertigo auquel on a mélangé du DC et on donne pas le même nom. Enfin, voilà, c'est tout.
Ouais, un peu. Ouais. Mais sinon, pour en revenir à The Question, c'est franchement à conseiller. Hein. Très bon.
Ouais. Et bien, très très bien. Anthony, tu avais un titre bonus. Je te propose de le garder pour la prochaine, puisque je sais qu'il va faire débat celui-là et on va être vraiment trop long. Je sais, toi aussi, t'étais chaud, Boris, pour aller dessus. Là.
Quel dommage.
On a eu notre petit débat avec Family Tree tout à l'heure. On se chauffe pour la prochaine avec... ce sera Heroes in Crisis, on va quand même donner le titre.
Voilà, tu teases, c'est bien.
C'est de notoriété publique que j'ai détesté ça. On verra, on connaîtra l'avis d'Anthony du coup la prochaine fois et on pourra en parler. Allez, on va conclure rapidement cet épisode. On se retrouve dans le courant du mois de décembre avec... un autre numéro, un autre format. On n'aura pas de review cette fois-ci dans cette émission. Et puis on va glisser gentiment vers le numéro 300 de Comic Stories déjà, ça fait quand même 5 ans. Glisser vers ce numéro 300 et puis janvier, qui dit janvier dit donc un numéro classique avec des chroniques VOVF et compagnie. Et puis forcément fin janvier on se retrouvera pour les Comic Stories Awards et notre bilan de l'année 2019 qui a été ma foi riche et mouvementé sur tous les fronts. Donc on aura pas mal de choses pour la débriefer cette année-là. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas, une bonne nuit peut-être si vous êtes Si vous nous écoutez avant de vous endormir, Boris arrive, il va vous remettre la couette. Bonne lecture.
La tisane est prête.
Parfait, bonne lecture et à bientôt.